Bonsoir à tous et à toutes, nous sommes mardi, il est 21h et c'est l'heure du Dojo Bar.
Bar.
Bonsoir à tous, bonsoir Mélouz.
Salut Mortal, comment vas-tu?
Mais ça va très bien et toi?
Je suis malade.
Tu es malade. Ah ouais, ouais merde. Ouais, c'est pour ça que t'étais. Ah ouais, c'est pour ça que t'as rien demandé aujourd'hui en fait, c'est ça le truc.
Ouais, voilà.
Et bonsoir à nos invités. Et bonsoir Antix.
Bonsoir.
Antix qui est un pilier de forum de Nintendo Man et qui est en train de devenir un pilier de Dojo Bar du coup.
Je crois que j'ai planté ma tente dans la salle.
Voilà. Il est juste derrière le comptoir là, puis il bouge plus. Et bonsoir Oscar, le maître des chiffres.
Bonsoir.
Non, très sobrement. Alors, le programme de ce soir. Eh bien, ce soir, il va y avoir de la baston, du combat, de la castagne, du bourre-pif, de la mandale, du pugilat, du duel à mort. Enfin bref, on va parler d'un jeu d'homme de vrai. Super Smash Bros.
Fracas de frangin.
Frangin de fracas super. Je tiens à préciser que cette émission n'est pas sponsorisée par Reverso, malgré les apparences. On leur a fait une belle promotion, je pense, la dernière fois. C'est ça qui est important.
Mais ça complètement. Voilà. Ensuite, après avoir parlé de frangin fracas super, nous aborderons la situation des développeurs japonais qui, il faut le dire, ont un petit peu de mal ces derniers temps à tenir la concurrence sur toute une série de domaines par rapport aux développeurs occidentaux.
Voilà, mais on va commencer par notre traditionnel tour de table de l'actu. Alors je vais laisser Antix commencer puisqu'il a un petit truc rigolo. Je ne parle pas de ça Antix, hein, je parle bien de la news que tu vas nous... Voilà.
Hein, ah merde, bon. Faut que je me ravie alors.
Exactement.
Alors c'est une petite news, bon ça va être dit d'une news Gameblog Closer vu le niveau. Il y a vraiment pas d'actu et en fait c'était sur le président de Sony qui apparemment doit posséder une Wii U puisqu'il a été banni du univers à deux reprises par les mecs de Nintendo qui ont sûrement grillé que c'était lui. Après, lui, il a trouvé des excuses parce qu'il avait mis son compte Twitter ou qu'il avait mis « J'adore PlayStation » sur le Miiverse. Mais bon, il s'est fait bannir deux fois comme ça.
Effectivement, c'est plutôt comique. Ce qui serait marrant, c'est que les mecs de Nintendo le fassent exprès pour... Parce que moi, ça me ferait marrer que les mecs le fassent exprès pour...
Il avait déjà dit auparavant, il a deux Wii. C'est pour ça qu'il s'est fait bannir deux fois, du coup.
Ah, c'est bien possible, ça. Mais il y a le même genre d'histoire qui est arrivé. Enfin, je pense que vous savez que chaque fois que Firefox sort une nouvelle version, l'équipe qui s'occupe d'Internet Explorer chez Microsoft avait pour
habitude... envoyer
un gâteau. Et quand ils ont changé la numérotation des versions, les mecs se sont rendu compte qu'ils allaient envoyer un gâteau toutes les deux semaines, en gros. Et donc ils se sont dit, ouais, d'accord, je comprends pourquoi vous avez changé la numérotation, ils étaient bons, les gâteaux. Ça me rappelle un peu ça, en fait. C'est le même genre de truc, cette espèce de troll intersociété dans lequel, on te bannit pour rien, non, mais c'est juste parce que t'es à la concurrence. Moi, j'ai... Alors, avant d'annoncer mon petit truc de tour de table de l'actu...
Ah. Santé.
Merci. Alors, en l'honneur de Reverso, je bois du Docteur Poivre. Voilà. C'est important. Moi, je voulais vous parler d'un petit truc rigolo que des programmeurs ont trouvé dans le code de Quake 3. Quake 3 est un de mes jeux préférés, c'est un des seuls jeux PC auxquels j'ai vraiment énormément joué. Et il se trouve que le moteur de Quake 3, IO Quake 3, est libre depuis un certain nombre d'années maintenant. Il a été libéré à la sortie, un petit peu après la sortie de Quake 4. Donc tout le code est disponible, enfin tout le code brut était disponible, il y a des gens qui aujourd'hui le maintiennent, le font évoluer et ainsi de suite. Et il y a des gens qui ont commencé à regarder un petit peu comment étaient faites certaines choses dans le code, et ils se sont rendus compte qu'il y avait des trucs qui étaient vraiment mais ultra gorés. Je donne un exemple de l'article que j'ai lu qui était un exemple très très drôle. Pour faire une réflexion sur une surface, quand on programme, théoriquement c'est une fonction mathématique. Alors attention, accrochez-vous à vos cachets d'aspirine, chers auditeurs. Hein. C'est une fonction mathématique relativement complexe qui est 1 sur racine de x. Donc c'est un truc assez compliqué à calculer, tu vois. Voilà, Donc t'imagines à peu près ce que ça fait, c'est pas... Pour un ordinateur, calculer 1 sur racine de x pour un nombre de points déterminés, ça fait un calcul assez lourd. Du coup, John Carmack, c'est même écrit, c'est lui qui l'a écrite la fonction, au lieu de faire ça, il a utilisé un nombre magique. C'est-à-dire qu'en fait, il a un nombre hexadécimal, on sait pas d'où il l'a sorti, Donc il a un nombre hexadécimal, il fait juste une opération super conne dessus, et ça calcule la réflexion. Du coup, le mec qui lit le code se dit, mais attends, c'est pas possible, il peut pas faire un truc aussi simple que ça, c'est juste complètement con. Et le mec se dit, bon, alors on va aller regarder ce que donne vraiment la fonction 1 sur racine de x, quand on la trace avec un ordinateur, on la calcule, on fait la courbe, on regarde ce que ça donne. Alors, ça fait une belle courbe bien linéaire, qui représente bien une réflexion, un machin, un truc, nickel. Il prend la fonction de John Karma, qu'il applique le même truc, ça fait un truc dégueulasse. C'est-à-dire, ça fait des hauts, des bas, des machins, ça oscille dans tous les sens, c'est juste n'importe quoi. Mais, quand on regarde de loin, ça fait à peu près un truc linéaire. Du coup, c'est une approximation qui est, on va dire, raisonnable quand t'es en plein jeu. C'est-à-dire, c'est pas un truc super précis, mais globalement, ça marche. Et le plus génial, c'est qu'à la fin...
Il y avait des réflexions sur quoi dans le micro au niveau lumière?
C'est pas des lumières, c'est des miroirs ou des choses comme ça. Il y a quelques miroirs, quelques surfaces réfléchissantes. Et le plus génial là-dedans, c'est qu'à la fin de la fonction, il y a John Carmack qui a écrit, alors on sait que c'est John Carmack parce qu'il a écrit JC, en fait, quand il met un commentaire dans le code, il mettait toujours son nom devant, qui avait écrit, bon, c'est dégueulasse, mais j'en ai rien à foutre. en anglais dans le texte, it's fucking awful and I don't give a shit.
You've lost the lead.
Voilà, donc c'est vraiment, je trouvais ça exceptionnel d'être capable d'un programmeur de ce niveau-là qui invente une astuce complètement craquée comme ça, qui la balance dans le code et qui dit je m'en branle, vous démerdez pour comprendre.
Je m'en branle, c'est dégueulasse.
Voilà, mais voilà, c'est peut-être pas très élégant, mais au moins ça marche. C'est vraiment exceptionnel. C'est Karma qui peut tout se permettre, je pense. Bon ben voilà, avant d'aborder, c'était un tour de table de l'actu extrêmement court, je pense qu'on a battu un record de vitesse à 6 minutes de tour de table de l'actu.
Bah allez, j'en place une, mais j'imagine que ceux qui suivent l'actualité sur le Dojo l'ont déjà vu. Ubisoft a présenté il y a pas longtemps Watch Dogs à la presse. Et, en fait, comme ils avaient plus de Doritos, bah, ils ont offert des Nexus 7 à la place. Le tablette, voilà.
Quel rapport?
Hein? Le rapport, bah, aucun, c'est-à-dire qu'ils ont offert des tablettes aux journalistes, quoi.
Oui, mais c'est parce que il a une tablette, le monsieur, dans le jeu. Et,
ouais,
voilà.
Quand Nintendo présente Mario Kart, ils offrent pas de karting, quoi.
C'est un tort, je pense. Il devrait.
On va leur suggérer.
Ouais, vivement, The Crew.
Voilà, excusez-moi. Il y a eu un petit blanc, je sais pas.
Oui, j'ai bien remarqué, là. C'est ma blague qui...
je suis désolé.
On en a entendu que la moitié en fait.
En plus, ouais. T'es super répété.
C'est vivement The Crew pour les. Du coup, ils offriront des voitures.
Des voitures, mais oui.
Voilà. Bon, bah voilà.
On va pas. On envoie la musique.
On va faire comme si t'avais rien dit, puis on va continuer. Alors, comme nous faisons une spéciale Smash Bros, enfin, fracas de.
Frangin
de fracas super. On va écouter une musique qui n'est pas dans Smash Bros.
Oh!
Ah ouais, non, c'est bien joué, c'est le seul jeu. J'ai trouvé
pas grave,
un jeu.
On va faire la musique nous-mêmes.
Non, alors je te coupe ton micro. Hop, coupez le micro. Ça suffit. Donc on va faire le seul jeu que j'ai trouvé dont les musiques ne sont pas dans Smash Bros, c'est Diddy Kong Racing. Et on va écouter tout de suite la musique de Boulder Canyon, c'est je crois Canyon au rondin en français, si je dis pas de bêtises. Ceci n'est pas une traduction reverso.
Boulder Reverso, ouais.
Voilà, on s'écoute ça, ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes et on se retrouve tout de suite après.
Hey.
Et nous voilà de retour. C'était une improvisation. Merci Méduse.
De rien, mortal. Bien le bonsoir. Merci, cher public.
Voilà. Le bouffon du roi.
C'est qui le roi?
Je pense que c'est Cyrard, comme il est pas là, on peut lui rendre petit hommage.
C'est le zizi de Cyrard.
C'est le zizi de Cyrard, ouais. Cyrard, si tu nous écoutes.
Cyrard, si tu nous écoutes.
Mais tu sais, Cyrard, il a pas. Le truc, c'est que son casque, il est juste limite pour la taille de son sgeg.
Bah. Forcément.
Bon, est-ce qu'on peut passer au sujet? Parce que là, sinon.
Tu vois, ça se parle de choses.
On va se perdre un petit peu. Super Smash Bros 3DS Wii U. Bon, on va commencer par un truc simple. On a presque une date.
Ouais, presque l'été. Deux dates même.
Presque deux dates. Alors oui, ce qui est étonnant, c'est que ça sort pas en même temps. Effectivement, moi j'étais assez surpris. Donc la version 3DS arrivera en été 2014. Donc je suppose après le mois de mai, puisqu'il y a Mario Kart. Donc ils vont quand même peut-être essayer d'écarter un petit peu la sortie de Mario Kart.
Je pronostique quelque part entre fin août et mi-septembre.
Tu penses que c'est une bonne période pour sortir un jeu, ça?
Smash Bros, c'est mieux qu'un mois de juillet, en tout cas.
Oui, c'est vrai, le mois de juillet, ça
mise. Je mise plutôt pour le mois de juillet.
Ouais.
Vous faites des paris, alors est-ce que ça va sortir au mois de juillet ou au mois d'août?
Fais des paris, qu'est-ce qu'on met en jeu?
Alors, qu'est-ce qu'on fait gagner ce coup-ci?
C'est les Clash World.
Non, je plaisante. D'ailleurs, on n'a pas annoncé les gagnants du concours. Hein. Je dis juste ça comme ça, on annoncera ça peut-être avant la deuxième pause musicale, comme ça on évite de trop s'interrompre.
Ouais, bonne idée.
Donc on a, voilà, et pour la version Wii U, ce sera hiver 2014, donc on peut supposer que ce sera pour les fêtes de Noël, ou pour les fêtes de fin d'année, novembre-décembre, quoi, ou... En février, ça m'étonnerait quand même.
Ça dépend, si Sakurai se recasse le bras, c'est février.
Parce qu'à chaque fois qu'il se casse le bras, il retarde 2-3 mois le développement.
Ben oui, c'est pour ça qu'il avait été repoussé à la base, donc que ça va influer grandement sur l'aventure.
Il est même pas capable de programmer un bras.
Mais non, faut pas dire ça, il a jamais été repoussé pour l'instant.
Non, il a jamais eu de date, mais on sait qu'au moment où Sakurai s'est pété le bras, ben, ils ont annoncé que ça allait prendre plus longtemps que prévu, parce qu'il s'était pété le bras.
Oui, d'accord.
Donc il a pas été repoussé, parce qu'il avait pas de date, mais...
Par contre,
maintenant, s'il se répète le bras, il...
Faut pas oublier que Smash Bros. Brawl, il était. C'est quelle année? Je crois que c'est en 2008 qu'il est sorti.
2008, oui.
Et à la base, il était prévu pour la fin d'année 2007. Et il avait été repoussé, quoi. Donc, effectivement, on peut s'attendre à tout.
Bah, est-ce que là, c'est crédible de se dire qu'il le reporte à 2015?
Ah, c'est possible.
En tout cas,
c'est ce que je dis, il faut s'attendre à tout. Là, de toute façon, on est encore trop loin avec Nintendo, on sait jamais, il y a tout le temps des reports qui sont
passés. Dans le 3, quoi.
Parce qu'ils ont quand même une très très grosse pression avec ce Smash Bros. Je veux dire, le Smash Bros, je sais pas si nos auditeurs sont bien conscients de ce que ça représente, mais Smash Bros, c'est. En intro, j'ai dit que c'était le jeu de combat, tout ça, mais c'est vrai que d'un point de vue, l'aspect compétitif, on va dire, de Smash Bros.
C'est devenu une action.
C'est vraiment devenu quelque chose d'extrêmement important. À l'Evo, c'était. Alors, je sais même plus si c'était Melee ou Brawl qui a été joué, je crois que c'était Melee. Melee, ça a été le plus gros score d'audience de l'Evo de tous les temps. Enfin, de tous les temps, c'est plus longtemps, mais.
Non. C'était lui qui a eu le record et il a été battu par Marvel. Voilà. Marvel vs. Capcom a fait le deuxième, avait fait le meilleur.
Capcom a fait le meilleur, donc c'est quand même le deuxième meilleur score de l'Evo, c'est pas rien.
En temps, Marvel vs. Capcom, c'est aussi une institution aux États-Unis, donc.
Oui, il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que Smash Bros. Avait été diffusé, ça avait battu le record. Juste après, il y a eu Marvel qui a battu le record, et après, il y a eu Street Fighter qui a battu le record encore.
Ça, je suis pas sûr. Bon. Peut-être que Marvel avait battu le record, c'est
une institution.
Quoi qu'il arrive, c'est quand même un truc qui est devenu important. Qui a pris une énorme importance
dans la vie d'une console Nintendo, même sans parler de la compétition qui est pas peut-être pas aussi développée qu'un Street Fighter 4 justement. Smash Bros, c'est aussi important qu'un Mario Kart parce qu'il y a quand même une attente, il y en a qu'un seul et c'est souvent des jeux qui sont joués jusqu'à la fin de vie de la console voire plus loin. Hein.
Et puis qui sont sacrément peaufinés puisque il y a peu de rééquilibrage en cours de route. Là maintenant sur Wii U, il y a moyen qu'ils fassent du rééquilibrage en cours de route. Désolé. Ça passe pas.
Y a un alien dans vos corps ou
c'est possible.
Cyrard sort de ce corps.
Non mais juste pour finir sur sur l'aspect compétition, il faut quand même remettre les choses dans le contexte, dans la mesure où ça reste quand même très loin des jeux de combat de Capcom ou de Namco, dans le sens où il n'y a pas de joueurs professionnels de Smash Bros comme il y en a pour Street Fighter par exemple. Oui, dans le sens parce que Nintendo ne supporte pas le jeu. Enfin, ne supporte pas le jeu au niveau compétitif. Maintenant, après, il faut aussi voir que Smash Bros, ça reste un jeu qui se vend 4 à 5 fois mieux que Street Fighter. Quoi.
Mais est-ce que justement, il pourrait pas se mettre le... Alors, on va peut-être avancer un petit peu. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, notamment sur le mode en ligne. C'est vraiment une énorme partie du truc. On vous passe les détails un peu ridicules, pas très intéressants. On peut éventuellement les passer, mais. J'ai l'impression qu'ils ont quand même mis le paquet sur le mode en ligne, qu'ils ont vraiment essayé de faire un truc suffisamment peaufiné pour que ça tourne absolument, enfin qu'il n'y ait absolument rien à lui reprocher. Ah, ça continue.
Non mais
du mal,
c'est ça. Tu parles du micro là.
Merde, je me rappelle pas avoir mangé ça.
Tu parles de Smash Bros à venir.
Je parle du Smash Bros à venir. J'ai l'impression qu'ils ont quand même mis.
On en sait à peu près rien, quoi, en dehors du mode Smash machin. Je veux dire, il y a rien de spectaculaire.
Ils ont quand même. J'ai l'impression qu'ils ont passé quand même un bon moment à en parler, quoi. Donc c'est pas rien.
Il y a plus d'options que dans Brawl où on était limité à des matchs contre 4 joueurs. 2 minutes avec pas vraiment de paramétrage. Là, il y en a un minimum, même si c'est 2 modes de jeu qui sont le mode qu'il y avait dans Brawl qui était un mode 4 joueurs avec tous les objets et le mode qui est plus pour les experts, on va dire. Uniquement sur la destination finale en duel et qui est le mode appauvri de Smash sur lequel se font toutes les compétitions en fait.
En fait, c'est ça qui est très intéressant parce que quand je disais que Nintendo n'a jamais supporté Smash Bros sur la scène compétitive, c'est même pire que ça parce qu'ils avaient tendance à empêcher Smash Bros d'aller sur la scène compétitive. Et c'est pour ça qu'on ne voyait pas Smash Bros, que pendant des années il n'a pas été présent à l'Evo. Et là, au dernier Evo où il a fait des records d'audience, juste avant, Nintendo refusait que le jeu soit en compétition. Ils ont changé d'avis à dernière minute en voyant le nombre de personnes qui voulaient qu'il y soit. Mais ils ont toujours détesté cet aspect que les joueurs avaient de prendre Smash Bros comme un jeu compétitif où on n'utilisait que destination finale. Ou d'autres niveaux plats, et parce que pour eux Smash Bros c'était un jeu comme un peu comme Mario Kart, vraiment pensé pour le fun uniquement.
Oui, c'est pensé presque comme un party game.
Voilà,
on exagère un peu, mais
parce que finalement on voit que Sakurai a fini par céder là-dessus en disant ok, d'accord, finalement je veux bien vous laisser kiffer l'aspect compétitif en faisant ce mode For the Glory, et en faisant d'ailleurs ce truc très intéressant qui est que non seulement parce que ce sera pas que destination finale, en fait on aura la possibilité de choisir n'importe quel niveau qui sera façonné comme destination finale.
Tout à fait, les niveaux seront simplifiés énormément, voilà. Il n'y aura plus d'événements à l'intérieur
ce sera techniquement le même niveau que destination finale mais avec les décors des autres niveaux. Ce qui est déjà intéressant pour l'aspect compétitif que de se taper sans arrêt le même décor. Ça c'est assez intéressant comme façon de faire les choses, parce que finalement, voilà, c'est Sakurai surtout qui a changé d'avis là-dessus en disant, après tout, on peut peut-être tenter de miser un peu sur l'aspect compétitif du jeu. Quoi.
Alors, la question que j'ai posée, c'est est-ce que le un peu pourrait devenir un beaucoup ? C'est-à-dire, est-ce que les mecs, moi, de ce que j'ai lu dans les comptes rendus et vu du Nintendo Direct, j'ai quand même l'impression qu'ils se disent qu'il y a peut-être un truc à creuser, et il y a peut-être moyen de vendre des consoles, hein. C'est peut-être aussi con que ça, hein, mais...
Non, moi, je pense pas que ce soit vraiment une question de vendre les consoles, je pense que c'est une très bonne opportunité pour eux, pour l'image de marque de Nintendo, en fait. De prendre une place dans la scène compétitive, je pense que ça va plus bénéficier à la marque Nintendo que à leur vente en elle-même, parce que après...
Parce que Nintendo est, Nintendo a été pendant un petit moment sponsor de quelques compétitions. C'était au début des années 90, mais il y en a eu. Le plus célèbre étant le Nintendo World Championship. Bon, c'était à l'époque où ils avaient tellement de pognon qu'ils savaient pas quoi en foutre. Mais quand même, ils ont participé à la scène compétitive. Ça s'est arrêté au milieu des années 90 parce que finalement, il y avait pas énormément de compétitions. ça a été relancé un petit peu au milieu des années 2000. Il y a de nouveau eu de la compétition qui était à l'origine énormément sur PC, qui s'est redéplacée sur console, notamment avec Street Fighter 4, mais pas seulement. Mais enfin, il y a quelques jeux qui ont commencé à relancer l'intérêt des compétitions sur console. Ils ont pris un peu le train en marche. Est-ce qu'ils pourraient se remettre à faire effectivement du très compétitif? Est-ce que Mario Kart 8, par exemple, pourrait aussi être très orienté compétitif?
Ouais, faut pas déconner.
Ouais, on va pas jusque là.
On sait jamais.
Oui, mais bon. Enfin, c'est-à-dire que, en fait, Nintendo, ils ont quand ils avaient fait ça à l'époque, les compétitions, je dirais même que c'était la fin des années 80, parce que là, c'était avant la Super Nintendo.
Mais enfin, il y en a eu un dans la période Super Nintendo, mais c'était au tout début. Donc effectivement, c'est à peu près cette période-là.
Mais enfin voilà, à l'époque, c'était juste une manière de faire du marketing qui était uniquement chapeauté par Nintendo USA, Nintendo of America. Et là, je pense que c'est surtout que Nintendo, ils ont toujours eu ce côté un peu sectaire de dire nous, notre philosophie, c'est de faire des jeux uniquement pour le fun et du coup le enfin voilà, c'est ça, c'est-à-dire que l'aspect compétitif de Smash Bros, de la logique de dire on enlève les armes, on fait que dans Destination Finale, pour eux ça allait pas dans l'essence du jeu, quoi. C'est pour ça qu'ils aimaient pas ça. Je pense qu'il faut rester prudent. Ce que je pense, c'est qu'ils s'ouvrent un peu plus avec ce Smash Bros. Maintenant, de là à dire qu'ils vont vraiment s'implanter dans la compétition, qu'ils vont peut-être créer des compétitions, c'est possible. Après tout, ils le font pour Pokémon, ils pourraient le faire pour Smash Bros. Mais j'attends de voir quand même, quoi. Mais ça serait bien en tout cas, je pense.
Alors, autre petite information concernant le online, petite information intéressante. Sakurai a dit que il valait mieux ne pas utiliser le Wi-Fi mais utiliser un adaptateur Ethernet. C'est un peu oui. Rigolo, quoi, de bannir le Wi-Fi. Donc
il le bannit pas parce que c'est quelque chose qui est propre. Enfin, pas mal de joueurs PC qui font de la compète sont au courant. Là, il y a une latence avec le Wi-Fi tout simplement
au dernier de Jobar, à celui d'avant, je crois.
Ouais, voilà.
On en avait parlé un petit peu. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est donc effectivement d'acheter un adaptateur Ethernet pour Wii, puisqu'il est compatible Wii U. Il vaut la peau des couilles pour aller avec, parce que quand on est un compétiteur, il faut quand même pas rigoler. Je vous conseille les câbles catégorie 6 double blindage cuir avec sertissage or.
Parce que pas assez arcade aussi avec.
Écoute, faut pas lésiner sur les moyens.
Peut-être avant d'envisager ce genre de truc, on va peut-être déjà voir si au niveau des infrastructures.
Je suis désolé, je suis pas d'accord. Il y a un moment où il faut le minimum.
Voilà. Ouais, mais si leurs serveurs à eux, ils sont à chier.
Mais c'est pas le problème. Toi, t'as assuré ta part du boulot.
Si on doit aller chercher les serveurs au Japon.
T'as assuré ta part du boulot.
T'as assuré ta part du boulot. C'est derrière les mecs qui tapent dessus à coups de marteau, ça sert à rien.
T'as assuré ta part du boulot. Et d'ailleurs, au bout de ce câble Ethernet, vous allez pas brancher juste votre Freebox parce que c'est un peu ridicule. Hein, je suis désolé. Moi, ce que je vous conseille, alors soit les Juniper EX4200, mais avec l'option Fast Switch, parce que sinon on n'y arrive pas. Soit les Arista EX4100 avec le cut-through, hein, pour c'est pouvoir bon, avoir ça, moins de 300 nanosecondes ça entre chaque port. Voilà.
Sans pied.
Là, d'accord. Là, ok, on peut essayer de faire un peu de compétition. Sinon, c'est
je
pas la peine.
Je sens un écran sans verre, c'est pour être certain.
Voilà, c'est un peu l'idée.
Sinon, donc, t'invites tes potes chez toi, y a pas de problème de lag.
Oui, ça c'est une très bonne solution aussi. Arrêtez de le faire en ligne pour des jeux qui sont pas du tout pensés pour ça.
Et moi je voulais revenir vite fait sur la partie compétition, c'est que ils travaillent quand même avec pas Nintendo qui le fait, c'est Namco Bandai, parce qu'on a quand même une tendance à oublier. Ah oui, c'est vrai, ils ont changé. Ils ont inversé. Ils travaillent avec Bandai Namco qui est quand même connu donc pour ses jeux de baston comme on l'a dit. Et moi, ça s'est surtout vu dans ce Nintendo Direct avec la communication de Sakurai quand il parlait des nouveaux persos et des modifications qu'il a fait au personnage. Il avait pas une volonté d'aller vraiment dans le technique comme on peut avec certains jeux de baston, mais vraiment d'expliquer vraiment en détail les petits ajouts, les petites modifications. Il va pouvoir s'attraper plus facilement, ce genre de choses. Ce que j'ai pas le souvenir d'avoir vu par exemple sur la communication de Brawl alors qu'il nous faisait un post par jour par exemple.
Et là, je suis tout à fait d'accord.
Il fait toujours un screenshot par jour sur le Miiverse, mais c'est vrai que, à mon avis, il a totalement pris conscience de l'ampleur compétitive qu'il peut avoir le jeu, et surtout du public derrière les Smash Bros qui était à bloc justement sur tous les trucs assez techniques, chose dont Nintendo n'avait pas confiance au moment de, pendant les 120 jours de communication de Brawl.
Est-ce que c'est pas simplement que... Enfin, moi j'ai l'impression que ce Smash Bros, les personnages qu'on connaissait déjà ont beaucoup plus de changements par rapport à Smash Bros Brawl qu'il y avait de changements entre Melee et Brawl, quoi. Par exemple, il a montré il y a quelques jours dans une de ses photos quotidiennes, il a montré l'attaque Fatal Foot de Pikachu où on voyait que maintenant il y avait un système pour donner un coup supplémentaire à l'ennemi. Enfin, ça c'est une première, alors que la Fatal Foudre elle avait été inchangée depuis le premier Smash Bros, quoi.
Il y avait eu quand même des changements dans Brawl. Je me souviens par exemple de la Toxic Clone de Link, fallait charger au lieu de lancer un dé directement.
Ouais, mais enfin, il y avait des changements effectivement, mais là j'ai l'impression qu'il y en a quand même plus, quoi.
J'ai surtout l'impression qu'il les met beaucoup plus en avant qu'avant aussi.
Ouais, c'est possible.
Alors ça fait partie effectivement des quand des jeux comme ça commencent à évoluer sur de longues séries, t'as des changements qui se mettent à devenir radicaux. Je pense que vous vous rappelez tous de certains jeux de combat genre Tekken et autres, à partir de je sais plus quel numéro, il y a tel personnage dont telle attaque a été totalement modifiée parce que il fallait que les joueurs qui jouent le personnage en question s'adaptent un petit peu et changent un petit peu. C'est aussi une manière de secouer un peu le joueur.
Oui,
c'est pas forcément.
C'est pas tant une manière de secouer le joueur, c'est surtout une question d'équilibrage en fait. Parce que de toute façon, on le voit avec Street Fighter, où il y a au gré des mises à jour, dans le même jeu, au gré des mises à jour, il y a des changements des fois radicaux sur les coups et les puissances des.
Oui,
des personnages. Après, les coups, dans Street Fighter 4, sur toutes les versions, les coups changeaient pas radicalement. Oui. D'une version à l'autre,
t'as les propriétés secondaires qui changeaient, mais ça peut changer beaucoup. Ouais, au niveau compétitif, ça peut changer pas mal de choses.
Au-delà de la question de l'équilibrage, il y a tout simplement le fait que c'est un nouveau Smash Bros et qu'il n'y a plus de Smash Bros depuis 6 ans, c'est pas pour refaire fondamentalement la même chose, quoi. Nouveau test, tout.
Oui, il y a aussi ça. C'est vrai que quand on regarde tous les nouveaux personnages, les nouveaux personnages sont finalement assez classiques, et c'est vrai que c'est les anciens personnages qui ont subi le plus de modifications assez radicales.
Nouveau personnage assez classique, il y a quand même des sacrés trucs dans le tas.
Oui, il y a des sacrés trucs dans le tas parce qu'il faut bien qu'ils soient joués. Mais ça fonctionne un peu comme comme League of Legends, quoi. Il y a un nouveau personnage, pour que tout le monde l'achète, il est super fort, et puis à la mise à jour suivante 2 semaines plus tard, ben ils réduisent tous ses pouvoirs parce que de toute façon c'est pas équilibré. Donc là on a un peu le même truc.
Sur du jeu PC, c'est vrai qu'il y a souvent des mises à jour sur des jeux multi en question en termes d'équilibrage. À voir si on aura le même suivi sur Smash Bros ou si
probablement. Très probablement.
Peut-être pas autant que sur League of Legends, ouais, vu qu'une fois que les gens ont acheté le jeu, ils vont plus payer et alors faut faire tourner les équipes quand même derrière.
Non mais moi je pense pas. Enfin c'est pas trop dans la philosophie Nintendo. Ils ont quand même tendance. Et Sakurai en particulier, ils ont tendance à vouloir faire un jeu parfait.
Ils ont tendance à vouloir sortir un jeu fini. Je suis d'accord. Mais quand t'as des gros problèmes, enfin, vous vous rappelez tous de Mario Kart Wii et des énormes problèmes qu'il y avait en termes
Non mais voilà, ça c'était des problèmes. Voilà. Mais en plus,
on n'est pas à l'abri de ce genre de choses là.
Faut pas oublier que c'est un jeu développé par Bandai Namco. Je pense qu'ils ont pas envie non plus de se faire chier à rester en communication avec Bandai Namco pendant 3 ans après que le développement soit terminé, quoi.
Mais j'ai pas dit qu'il y aurait pendant 3 ans, j'ai juste dit qu'il y aurait peut-être petits ajustements.
Et faut pas oublier aussi qu'avoir un jeu de baston qui est mal équilibré ou trop buggé à la sortie, ça peut le tuer instantanément. Sur les gros jeux récents, j'ai pas forcément d'exemple en tête, mais il y a eu le jeu Jojo Bizarre Adventure qui est sorti sur PS3. Il était défoncé parce qu'à la sortie, il était équilibré avec les pieds et que t'avais un personnage qui était plus fort que les autres.
Bah oui, non, mais ça, de toute façon, évidemment, si le jeu est pas au point à sa sortie, ça peut le flinguer, quoi, c'est clair.
Et puis même si tu corriges le tir très très rapidement, ça se voit que t'as pas fait ton boulot, donc de toute façon c'est pas un gage de confiance.
Les premiers acheteurs vont se méfier, déjà ça va donner une mauvaise réputation dans la première semaine qui suit, comme c'est souvent que là tu joues, même peut-être pas pour Smash Bros qu'ils vont bien sur la durée, mais...
Non mais de toute façon je pense qu'on brasse un peu du vent, parce que vraiment s'il y en a un qui sort des jeux finis, c'est quand même Nintendo, quoi.
Oui, ça c'est vrai. les seuls qui continuent à sortir des jeux finis, effectivement, c'est Nintendo.
Enfin, ceux qui ont pas mis une sauvegarde dans Skyward Sword, on se souvient d'ailleurs très bien.
Ouais. C'est un peu triste.
Non, mais bon, il y a toujours des petits problèmes.
Je crois que c'est Pikmin 3 qui a été un des, qui est peut-être même le seul d'ailleurs jeu Nintendo sur Wii U qui a été patché, à part New Super Mario Bros.
Nintendo
a été patché, mais c'est pour intégrer Luigi.
Ouais.
Non, mais ils font quand même souvent des patchs, mais c'est des trucs très mineurs. Enfin, ouais. Voilà, c'est des...
Alors, sur Pikmin, ça change quand même 2-3 bricoles. Hein. Ils ont corrigé pas mal de bugs, en fait.
Ouais.
Bah, en fait,
non, la... Il y a un suivi, ça c'est certain. Maintenant, c'est clair que de base, même sans le patch, il n'y a aucun jeu où tu peux dire que t'as un problème majeur ou...
Bah, disons que l'avantage du patch, c'est que s'il y a un problème majeur et que ça n'a pas été détecté avant, tu peux le corriger a posteriori, ce qui est effectivement pas le cas pour les autres, et c'est un peu dommage. Plutôt que de parler de bugs et autres, vous avez vu aussi le Global Smash Power, le système de classement en ligne.
Oui.
Alors,
pour expliquer facilement, c'est simplement je crois que c'est par rapport au mode solo, grosso modo, c'est ta position par rapport aux autres joueurs ou par rapport au score que tu fais, je crois, c'est ça.
Je crois que c'est un mélange du solo et du multi.
Il me semble qu'il y a un mélange effectivement solo et multi, mais ça te permet de donner. Il y a un vrai classement mondial. Enfin, mondial. Théoriquement.
Donc c'est un repère, quoi. C'est un repère qui te fait dire, voilà, il y a autant de gens derrière ou devant toi. C'est tout. Mais c'est pas, il y a pas une volonté, je crois pas qu'il y ait une volonté de faire vraiment un classement hyper détaillé du genre, j'ai battu X fois Andix parce que c'est un poste 90 ou genre de conneries.
Voilà, ou alors je me suis fait rosser par Sirar parce qu'il a un gros zizi, enfin non, voilà, c'est pas l'état d'esprit du truc.
C'est juste
une espèce de grand classement global qui permet de savoir à peu près où on en est. Enfin, moi c'est ce que j'en ai compris.
Ouais.
Alors après, voilà, c'est un ajout, enfin je sais pas si c'est un ajout extrêmement intéressant.
Je pense qu'on l'ouvrira une fois pour voir où on en est et après on ira jouer à Smash Bros.
On est d'accord.
C'est tellement minime, c'est pas comme le classement de Rayman Legends où tu vois on était un petit peu aggro de voir où on était et tout ça, mais...
Ouais, non, mais là il y avait un vrai aspect compétitif, là j'ai l'impression que c'est un truc un peu plus général qui est pas forcément...
Oui, voilà.
Donc du coup je vais vous enchaîner. Le mode Aventure Smash de la version 3DS. Alors je rappelle un petit peu le principe, donc... plein de gens se baladent dans un niveau, enfin il y a quelques personnages qui se baladent dans des niveaux pour aller récupérer plein de bonus, et à la fin, une fois qu'ils ont récupéré tous les bonus,
ils se bourrent la gueule.
Donc c'est une espèce de mode collaborativo, enfin je sais pas s'il y a une partie collaborative,
ce serait sympa. C'est le City Trial de Kirby Air Ride adapté à Smash Bros.
Voilà, bah c'est exactement ça.
Et le City Trial était un mode absolument fantastique dans Kirby Air Ride, c'était le mode le plus intéressant et le plus réussi. Ça pourrait être sympa, mais c'est que sur 3DS malheureusement.
Voilà, donc pour le moment, on n'a pas d'infos sur le contenu spécifique à la version Wii U, donc on ne sait pas c'est toujours possible qu'il soit aussi dispo sur Wii U.
Pas dire maintenant.
Non,
il a dit que c'était que sur 3DS.
Ouais, c'est que sur 3DS, donc il ne sera pas sur Wii U, mais il y aura sûrement un autre truc sur Wii U. Mais moi, la question que j'ai, c'est est-ce qu'il a été confirmé comme étant disponible en ligne? Parce qu'ils ont bien précisé que pour y jouer, il faudra que chacun ait une cartouche.
Je crois que oui, en multijoueur local.
Bah, de toute façon, en multijoueur en ligne, t'es obligé d'avoir une cartouche, quoi.
Il y avait un sous-entendu multijoueur local, quoi. Enfin, tel qu'ils l'ont présenté, j'avais pas l'impression que c'était un truc disponible online, quoi.
Moi, j'ai compris que c'est... Enfin, après, j'ai peut-être mal compris, mais j'ai compris que c'était disponible online. Mais après, j'ai pu me tromper.
Non, il me semble que ça le sera. Mais, de mémoire.
Ce serait pas mal, vérifier.
Bah, c'est vrai que pour ce genre de mode-là, Kirby's Air Ride, ce mode-là, il était jouable en LAN.
Mais c'est surtout que une console portable, c'est quand même plus difficile de jouer en multi sur portable que sur salon. Donc vu que le jeu est quand même ce mode est quand même très orienté multijoueur. S'il n'est pas en ligne, moi, j'en verrais pas un grand intérêt, quoi.
Mais c'est surtout que tu joueras pas souvent. Hein.
Bah ouais.
Enfin, à moins que tu joues avec des gens que tu croises dans le RER le matin, ça peut être intéressant, mais.
C'est peut-être le masque de passe, un peu comme
ça. Vu où j'habite, je prends pas souvent le RER.
Ah, mais ça c'est ton problème.
Faut déménager,
t'as pas le choix. Moi, je sais que je croise très souvent dans le RER des gens qui ont des 3DS, et c'est vrai que tu reçois un mi, tu regardes autour de toi, t'essaies de trouver le mec. Et là, s'il a Smash Bros, tu peux lui dire, hey mec, on se fait une petite partie. Bon, sur 3 minutes de RR, ça va être un peu compliqué, mais il y a peut-être moyen. Et donc, le dernier petit truc qu'on a appris... alors, je vous ai volontairement passé tout un tas de choses dont on se fout.
Il y a les objets, les stages...
Il y a les boss sur les stages.
Je suis désolé, mais personnellement, je trouve que c'est le truc le plus intéressant.
De quoi? Les events sur les stages?
Bah non, les oui, les objets, les stages, les personnages, enfin les nouveautés quoi.
Les deux, bah c'est... ouais, enfin.
Ouais, on a pas vu.
Moi, c'est tellement l'avalanche que là on est parti pour 3 heures quoi. Mais effectivement, ouais, le coup des boss, c'est.
Le coup des boss, ça peut être intéressant. Les objets, si on commence à tous les détailler, effectivement, on va y passer 3 heures et je suis pas sûr que ce soit très intéressant.
Tant qu'il y a la batte de baseball et le sabre laser, c'est bon. Et voilà, les mines, c'est très important les mines.
Et le marteau.
Une fois qu'on a le marteau, c'est bon. Donc pour les boss, puisque alors Médus, puisque t'étais parti, est-ce que tu veux bien faire une toute petite explication sur les boss?
Non.
D'accord.
Complètement pas.
Complètement pas.
Non, j'ai un peu oublié le bazar, donc j'aurais pas oublié.
Alors dans certains niveaux bien particuliers, il y a un boss qui se déclenche. C'est une sorte d'event en fait dans le niveau et il peut te latter les cacahuètes.
Je crois que c'est le moment où le jeu devient compétitif mais coopératif. À la place, mais évidemment, tu peux quand même désinguer toi pendant que le boss est là, mais après il faut que tu désingues quand même le boss. Donc t'as plutôt intérêt à désinguer le boss et puis tes potes que l'inverse.
Désinguer les autres plus facilement aussi, je crois.
Ouais, enfin, de toute façon, ça a toujours été l'essence du jeu de proposer des niveaux avec une interaction qui fait chier un peu tout le monde. C'est toujours le meilleur moment pour bien buter l'adversaire, quoi.
C'est le meilleur moment pour aller pourrir la gueule de tes camarades, quoi. Mais effectivement, mais là c'est la première fois. Parce que, effectivement, les niveaux très interactifs dans Smash Bros, c'est pas une nouveauté. Il y avait la lave qui montait dans Brinstar. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça de trucs où tout le monde a intérêt à. Ah, c'est truc, mais là, t'as une espèce de vrai ennemi commun à combattre quand même, qui peut faire énormément de dégâts si personne ne lui tape dessus, donc t'es quand même obligé de t'intéresser un peu à lui, qui apporte un bonus si tu le tues, si je me rappelle bien.
Ouais, c'était une explosion sur le. Alors, c'était le truc de Megaman, dont j'ai complètement oublié le nom, qui est jaune, et quand tu le tuais, ça explosait, ça touchait les ennemis à proximité. Hein.
Voilà, donc c'est une espèce de collaborativo-compétitivo truc, c'est-à-dire que voilà, tout le monde a intérêt à ce que le machin pète, mais pas dans ta gueule, quoi.
Bah, c'est surtout que quand le machin pète, t'as intérêt à essayer d'envoyer ton adversaire sur l'explosion, quoi.
En plus.
C'est là que ça devient vraiment intéressant.
Donc les objets, les machins, tout ça, on est d'accord, on n'en parle pas. Hein, vous allez voir le résumé qui a été fait par Médus, parce que sinon on va pas y arriver.
Je vais pas les objets non plus, il faut aller chercher ailleurs.
Je vais faire un résumé qui
tu si vas faire un...
arrivera dans la semaine.
D'accord, donc c'est une bonne nouvelle, on va avoir un vrai gros résumé. Parce que effectivement, si on commence à parler de tous les objets, ça va être très 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 long. Y a une dernière petite nouveauté que j'ai notée, l'arrivée de Dracaufeu et de Amphinobi. Je me dis qu'à ce rythme-là, si ça continue comme ça, hein, en 2140, ce sera Super Smash Pokémon Bros Stadium.
Traduction inverse, s'il te plaît.
Alors merde.
Tu rigoles, mais quand j'étais gamin, que je jouais à 64, je rêvais d'un Smash Bros avec que des Pokémon. Quoi.
Bah tu l'as eu, c'est
Pokémon Stadium.
Mais non, mais ça n'a rien à voir.
Je sais, c'est pour te troller. Pardon. Donc une pensée, c'est vrai que là en termes de personnages, alors il y a eu des choses assez intéressantes. Donc Yoshi a été reconfirmé. C'est pas une énorme surprise. Ouais, c'est un peu ça. On savait que le dragon vert qui chie des œufs, il allait revenir de toute façon.
Il y a toujours pas de triple saut, je parie.
Ah ça je sais pas, j'ai pas suivi. Il y a des personnages qui ont été séparés, c'était effectivement il va y avoir 50 persos, mais en réalité Shake et Zelda c'est deux personnages différents. Samus sans costume et Samus avec costume c'est maintenant deux personnages différents.
Et c'est pas plus mal d'ailleurs.
Et c'est pas forcément plus mal parce que c'est vrai que c'était assez pénible sur la version Brawl de tu fais ton Super Smash et tu te retrouves à Walp.
Moi j'aurais plutôt dit l'inverse, tu dois remettre l'armure de Samus, ça a été horrible Samus dans Brawl.
Ouais non c'est vrai que c'était pas facile à jouer en tout cas. C'était intéressant pour le côté design et tout, mais c'était vraiment pas facile à jouer. Et donc, j'ai l'impression que maintenant, l'arrivée de nouveaux personnages, à part les personnages genre Megaman et autres, ça va être des Pokémon, quoi. Alors, j'ai rien contre Dracaufeu, j'ai rien contre Amphinobi, même si Amphinobi, j'ai un peu du mal à situer qui c'est. Parce que
un starter de la dernière génération.
D'accord.
Ludo, pour être plus précis.
Donc c'est ouais. Ok, donc c'est du fan service à fond ou ça a un vrai intérêt.
Je crois que c'est un des plus populaires de la nouvelle génération.
C'est-à-dire il y avait les Pokémon, il fallait quand même en mettre un de la nouvelle génération et c'est un peu le seul candidat crédible parce qu'il n'y en a pas eu des masses des nouveaux Pokémon dans la dernière génération et c'était le seul qui avait un potentiel pour Smash Bros quoi. valait mieux un starter, parce que les légendaires n'étaient pas adaptés pour être jouables dans Smash Bros. Et c'était le enfin ouais, voilà, le côté ninja et tout, ça peut donner un truc sympa, quoi.
Tiens, au niveau gameplay, est-ce que ça... Enfin, je suppose que tout le monde joue à peu près avec une manette GameCube sur le précédent Smash Bros. Sauf celui sur...
Ah, on t'a perdu, mais
64.
Ouais, sauf celui sur 64, donc...
Y a-t-il le nom de la console maudite ?
Tu t'es toujours pas acheté le micro.
Non, en effet.
Toujours en direct des palettes.
Est-ce que vous voyez le gamepad ou même le contrôleur classique comme une manette confortable pour jouer à un Smash Bros. Par rapport à la manette GameCube ?
Ce sera pas aussi bien, mais
faudra s'habituer.
Ce sera toujours mieux que la Wiimote ou l'ancien Pro Controller.
C'est vrai que la Wiimote c'était vraiment
injouable, ouais, on peut le dire. Hein.
La différence entre le Pro Controller entre la manette classique et le nouveau Pro Controller, il y a pas grand chose comme différence. Hein.
Quand même bien meilleur en main.
C'est
ouais,
un
non,
petit
mais
peu plus confortable.
C'est le meilleur layout. Enfin, les boutons sont toujours aussi moisis, le stick aussi. Bon.
Oui, c'est pas bon. C'est...
Ouais, je suis pas d'accord.
La manette GameCube.
Oui, non, mais la manette GameCube est mieux, ça, on est d'accord. De toute façon.
Ouais. Mais ça, je veux dire, ce sera peut-être le truc le moins. Je veux dire, on va enfin avoir un Smash Bros. En HD avec un contenu démentiel, etc. On se retrouve quand même avec des manettes pourries, quoi.
Ouais, non,
c'est
mais
pas dommage.
Bon, c'est clair qu'au niveau des manettes, on régresse. Ça, je suis d'accord.
Après, t'auras peut-être Ori ou un autre fabricant d'accessoires qui te refera une manette GameCube Bluetooth compatible Wii U. Et là, tu vas tellement avoir le kiki tout dur que tu vas lâcher tout de suite, quoi.
Ah non, mais carrément, je veux dire.
Moi, les mecs qui font ça, sans déconner, je l'achète, hein, c'est obligé.
Ah non, mais carrément. Pour moi, l'erreur de Nintendo, c'est d'avoir régressé au niveau manette, de pas avoir repris le même stick. Tout plein de petits trucs qui faisaient que la manette GameCube, elle était ultime pour toute une série de genres de jeux.
Après, c'est surtout la disposition des boutons pour moi qui était. Parce que Smash Bros, il a vraiment été pensé pour une manette de GameCube. C'est vrai
que t'as que ça, parce qu'avant, tu jouais sur une manette de 64 et t'avais quand même 6 boutons en façade, quoi.
Oui, mais tu te servais pas. Enfin, attends, sur Smash Bros.
Tu savais des mêmes boutons que.
Non, mais
entre Melee et le 64, c'était les mêmes boutons.
Oui, c'est A, t'as A, B, là. T'as A, B, là.
Le saut, c'était les touches C et R, c'était le garde.
R c'était le garde, et même le saut tu peux le faire en appuyant sur O. Alors après je n'ai jamais fait, je promets, juré craché, j'ai jamais utilisé O pour sauter dans Smash Bros. Je sais que c'est une hérésie.
Ah, c'est quand t'as le bouclier, c'est sympa. Ça, ouais, voilà, ça marche.
C'est, t'avais quand même relativement peu de boutons utilisés sur la version GameCube. Voilà, t'avais le bouton A et B. C'est le jeu de combat qui est quand même le plus simple à prendre en main au monde. T'as deux boutons et des directions, quoi.
Et tous les personnages ont les mêmes coups, c'est ça le plus important.
Et tous les personnages ont les mêmes coups, t'as pas de quart de cercle, de maintenir machin et faire avant tout en tenant ton slip et avec ta quéquette dans la bouche. Enfin voilà, t'as pas les trucs comme ça, quoi.
Faire trois tours de stick et appuyer sur tous les boutons avec ta tête en même temps.
Voilà, puis t'as pas les trucs genre, ouais, tu fais un 360 suivi d'un 360 à l'envers suivi d'un autre 360 et ensuite tu martèles avec ta quéquette sur le gamepad.
Non, mais de toute façon, ça fait partie de l'essence du jeu et c'est une des clés du succès de Smash Bros, sa simplicité d'accès.
L'accessibilité, hein.
Voilà, l'accessibilité à côté de jeux comme Street Fighter où il te faut une licence pour faire un master, quoi, pour maîtriser le jeu, quoi.
Mais donc, je sais pas si sur une manette, sur un pro contrôleur Wii U, on va appeler un chat, bah c'est pareil, tu vas avoir deux boutons, il y aura peut-être une des gâchettes qui sera utilisée pour sauter, ce serait assez pratique.
Oui, mais ça.
Puis voilà, il n'y a pas besoin de plus que ça.
Ça va être clairement la même chose. Pas annoncer de nouveaux systèmes dans le jeu. Dans Brawl, il y a eu le Final Smash qui a été introduit. Puis après, bon, bah, ici, il n'y a rien de nouveau comme technique, j'ai l'impression.
S'il y a des nouveaux systèmes, ce sera les personnages eux-mêmes, comme
Itazuma
qui a sa barre de KO à gérer, quoi.
Oui, voilà.
Ah, mais c'est rigolo d'ailleurs qu'ils aient rajouté des trucs comme ça, des trucs très 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 spécifiques à un personnage.
Moi je trouve que le principe des boss, c'est en termes d'importance de nouveauté, c'est équivalent au Final Smash de Brawl.
Oula.
Ouais, mais ça concernera qu'un certain nombre de niveaux, je pense.
Ça concerne pas tous les niveaux, a priori.
Et après, en termes d'ajout sur le rythme des parties, tout ça, c'est clair, c'est monumental. Enfin, c'est très important.
C'est la même idée que... le parallèle est un peu foireux, je suis désolé. C'est un peu la même idée que Left 4 Dead, finalement, dans lequel les events cassent un peu la monotonie du jeu, au sens... je dis pas que Super Smash Bros. Est un jeu monotone, mais c'est vrai qu'une fois que t'as fait les les combats. C'est vrai que là, ça rajoute une espèce de dose d'imprévu et de piment au milieu d'un...
Ouais, puis tu te retrouves surtout avec un adversaire extrêmement fort, soudainement, sur lequel tu dois être trois fois plus vigilant, quoi.
Voilà, puis dès qu'il apparaît, je suppose qu'il va falloir lui buter la gueule très très rapidement pour essayer d'en profiter le plus possible. Donc, je suis d'accord avec Oscar sur le fait que c'est une grosse nouveauté, mais ça se rapproche effectivement d'un aspect pour pimenter le jeu en multi.
Ouais.
Bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ?
Ouais, moi je viens de...
Ça va vous faire rire,
c'est un truc de réponse parce que...
Méduse va se coller la honte en direct, vas-y.
J'ai découvert Smash Bros. Brawl dans la console, grosso modo, deux petites heures. Donc là, j'ai entre les mains le mode d'emploi qui est en couleur, super.
Ça fait longtemps que t'en avais pas
vu. Au verso du mode d'emploi, il est écrit « Rendez-vous au dojo ». Et je trouve ça c'est beau quand même.
Merci Tonton Sakurai si tu nous écoutes.
Je veux dire, historiquement, à part Antix qui peut être né un petit peu trop tard, je veux dire, je suppose, Oscar, que vous avez découvert Smash Bros, je suppose, sur 64 et vous aviez accroché sur 64, j'imagine.
Oui, évidemment.
Pareil sur 64, j'avais été bloqué.
Ta gueule. Est-ce que vous avez, au fur et à mesure des versions, est-ce que vous aviez suivi Smash Bros, toujours beaucoup joué, comme ça peut être le cas peut-être sur d'autres jeux, ou alors pour vous, est-ce que c'est une série qui n'a pas tant d'importance que ça en termes d'amusement tout ça, quoi. Et vous êtes pété la gueule à chaque Smash Bros.
Je vais me permettre de répondre en premier. Donc moi, Super Smash Bros 64, je l'ai jamais eu. Parce que j'étais pauvre, donc j'ai racheté une cartouche il y a pas longtemps et j'y ai rejoué il y a pas longtemps et c'est vrai que c'est sympa quoi, c'est Smash Bros dans son plus simple appareil finalement, il y a pas de chichi, c'est le truc un peu de base, mais je comprends pourquoi le jeu a bien marché parce que c'est vrai que c'est quand même très 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 fun. Et Smash Bros Melee, en fait, j'y ai énormément joué avec mes colocs. Parce que c'est vrai que c'est quand t'as des colocs et que t'es sur un canapé pourri, c'est le jeu idéal. Parce que tu te fais plus d'ennemis sur un jeu comme ça que sur un jeu super violent, c'est ça qui est drôle, ça détruit plus d'amitié que... C'est un peu comme Mario Party, ça détruit beaucoup plus d'amitié que n'importe quel jeu violent.
Ça détruit surtout des
sticks
Nintendo 64.
Alors les sticks Nintendo 64, je veux bien croire qu'ils souffrent, là c'était Smash Bros Melee, donc sur GameCube ça allait un petit peu mieux.
Mario Party, c'était surtout la paume de tes mains. Hein.
Mario Party, c'est vrai que c'était un peu extrême là-dessus. Et je me rappelle qu'on a fait énormément de sacs de frappe. Je sais pas si vous vous rappelez le home run contest avec mes colocs. On en a vraiment fait pendant des heures et des heures et des heures à essayer de battre les records, trouver des techniques de plus en plus farfelues pour arriver à faire des scores. Donc c'était quand même assez marrant. Et je me rappelle que Brawl, j'ai fait le mode solo. J'ai fait quelques parties avec des copains. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui venait à la maison, on se faisait un petit brawl, mais j'ai pas joué beaucoup plus que ça. Voilà.
D'accord, d'Oscar.
Mais au moins, je l'ai déballé le jour de la sortie. Pas comme toi.
Ta gueule.
Bah moi, écoute, j'ai acheté une Wii japonaise juste pour pouvoir avoir Smash Bros. Brawl à ta sortie.
Ah oui, oula.
Fanboy.
Carrément. Et du coup, t'attends à fond les versions 3DS et Wii U, je suppose.
Oui, évidemment.
D'accord. Il y a quoi qui en a rien à foutre de Smash Bros.
Mais oui, mais c'est une espèce bizarre.
Peut-être, oui,
avec des tentacules et...
Dans ta gueule, ouais. Non, moi j'avais effectivement, je l'avais découvert sur 64 et à l'époque on était quand même un petit paquet de monde à squatter dans un magasin spécialisé jeux de la région. Et c'est vrai qu'on a joué des parties sur le premier Smash, enfin le Smash 64, mais énorme. Et par contre, après, dès la version GameCube, j'ai surtout joué en solo parce que je trouvais personne avec qui jouer. Enfin, après, c'est l'époque où les potes commencent à aller dans des écoles. Machin à déménager le truc.
Et voilà, on a pas. Mais là, plaque.
On perd encore Méduse.
On perd encore Méduse, ouais, mais je propose
de bannir Méduse tant qu'il n'a pas racheté
ça risque de durer un petit temps. Non, voilà, donc finalement, à part le 64, j'ai pas joué en multi aux autres Smash Bros. Et finalement, avec le temps, j'ai jamais été très fan de jeux de baston, mais du coup, pour moi, c'est loin d'être une priorité. Sinon, j'aurais déjà serré Brawl dans la console depuis longtemps. Et je serais plus à bloc sur Mario Kart qu'à bloc sur Smash Bros.
Mais alors, le truc, c'est qu'avec le... Avec
ça, ça m'amuse moins, en fait, les jeux de baston.
Mais avec le nouveau mode en ligne qui va probablement être plus simple à utiliser, peut-être que tu vas pouvoir quand même te refaire du multi, même si c'est en ligne. Enfin, t'as pas de copains dans ton salon, mais t'as des copains en ligne.
Ouais, non, mais je pense que je vais pas l'acheter du tout. Je vais être à bloc en Mario Kart.
Oh là 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 là. Oh, le mauvais fanboy. Oh, le mauvais fanboy.
Oui, mais moi, j'avais Smash Bros. 64.
Non, alors, tu vas me faire un grand plaisir et tu vas te faire tout de suite un milkshake au cyanure.
D'accord.
Bon, alors pour nos auditeurs qui n'ont pas encore fait de milkshake au cyanure, maintenant qu'on a évoqué quelques petits souvenirs, on va faire une deuxième pause musicale.
On va annoncer le vainqueur avant.
Ah oui, on va annoncer le vainqueur, t'as bien fait de...
Nous avions en lice, nous avions organisé un concours pour le 1er avril dans lequel nous avions mis en lice un Wonderful 101. Et nous avions deux auditeurs susceptibles d'être les vainqueurs. Il s'agissait de Dr. Mario et de Dashemet. Mesdames et messieurs, qui a gagné? Qui va gagner? Mortal, qui?
Eh bien, les deux ont gagné.
Bravo, bravo, vous avez gagné.
C'est comme à l'école des femmes, personne n'a perdu.
Un Wonderful...
Ah, Wonderful 101, voilà. Et alors, non, alors on a décidé en fait de remplacer Wonderful 101 par Sonic Lost World. Donc vous allez recevoir chez vous un Sonic Lost World. J'espère que vous êtes contents.
Voilà. Voilà, on va prendre contact avec vous pour avoir vos adresses pour vous envoyer Sonic Lost One.
C'est le crossover de l'année, quoi. C'est Sonic Lost One. J'espère qu'ils feront un DLC Smash Bros sur Sonic Lost One. Ça, franchement, ce serait cool.
Il y a déjà tous les personnages.
Ouais, non, ce serait vraiment super.
Il y a le Dr. Mario qui dit qu'on est trop beau.
En même temps, il a gagné un jeu, donc il devrait être content. Dr. Mario, big up, bro. Faut que tu nous envoies ton adresse pour qu'on puisse t'envoyer ton gain. Et Dashemat, pareil, faut que tu nous envoies ton adresse pour qu'on puisse envoyer ton gain. Je pense qu'on réorganisera un petit concours de ce genre-là dans quelques émissions. Où on essaiera de faire gagner un truc qui pète. Hein, genre un truc qui pète. Je sais pas quoi, mais un truc qui pète. Ça c'est une bonne idée, ça. Bref, deuxième pause musicale, donc nous allons écouter un autre morceau de Diddy Kong Racing, puisque c'est le seul BO qui n'est pas dans ce qui ne sera pas.
Je peux faire la musique à la bouche si tu veux.
Et alors, en plus, comme ça, ça n'a vraiment aucun rapport avec le reste de l'émission.
Ah ouais, non, mais c'est bien parce que je te dis, j'ai vraiment bien choisi, je trouve. J'avais envie, je me suis dit, allez hop, Diddy Kong Racing, c'est rigolo. C'est la musique de Hot Top Volcano qui, je sais plus le titre en français parce que je ne joue pas en français.
Ah, ça, je me souviens plus.
Donc, c'est le volcan trop chaud.
C'est la musique qui fait.
Et nous voilà de retour.
Tour.
J'ai un peu raté mon retour. Attends, tu vas fermer ta gueule, le lapin, hein. Putain, c'est pas vrai, ça. Il me gonfle, ce lapin.
Il est en train de fond. Il est en train de se pignoler. Oh, c'est que je pars.
Mais tu sais qu'il est... C'est un des auditeurs les plus assidus. Il écoute toutes les émissions. Et là, il commence vraiment à me gonfler.
Je crois qu'il va, la prochaine, il va faire un arrêt cardiaque.
Tu finis par lui mettre une patate. Il me saoule. je lui mets un taquet dans la mouille, et puis, parce que là, ça commence à me gonfler. Donc, le sujet de l'open bar. C'est un sujet polémique. C'est ce que l'on appelle par chez nous, hein, quand on prépare l'émission, on appelle ça un topic à troll, parce que l'objectif c'est que ça troll un maximum.
Ah,
c'est
sérieux.
Non.
Merde,
sujet sérieux.
Non,
c'est... t'as pas suivi, toi. Tu sais dans quelle émission t'es? T'es sûr que t'es pas... Hein, ton taux d'alcoolémie, ça va ou...
Une émission avec un lapin qui pèse 100 mètres arrière, il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Ça, c'est pas évident. Donc, le sujet s'intitule « Les développeurs japonais sont-ils sur le déclin ?» Alors, c'est un sujet qui est pas neuf. Hein, ça fait quand même quelques années que la presse se délecte à chaque fois. Il y en a, ouais, ça y est, les développeurs japonais sont finis, tout ça. Mais bon, alors, faut quand même regarder un peu les faits. On a beaucoup de licences qui ont été transférées vers des studios occidentaux ces dernières années. Je pense à Silent Hill, je pense à Metroid, mais je pense que vous avez probablement d'autres exemples qui vous sont venus en tête. On a des studios américains qui sont plus dynamiques, plus créatifs, plus profitables. Donc voilà, est-ce que vous pensez que les développeurs japonais sont en perte de vitesse? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un renouveau à un moment? Ou est-ce que vous pensez que, effectivement, le basculement vers l'Occident s'est fait et que maintenant c'est plié? Au Japon, il va rester quelques studios très 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 talentueux. Genre les studios de Nintendo, la Team Ninja, 2-3 autres, mais c'est tout.
La Team Ninja,
Non, c'était pour donner un exemple. Ok, ça va, les exemples. Platinum Games.
Ouais, c'est
déjà mieux.
Voilà, bon. Je suis désolé, il y a quelques studios japonais qu'on dit très talentueux et que je considère que c'est des gros cons. Donc après, voilà, quoi, on est bien obligé de s'adapter. Donc voilà, je sais pas si Oscar, tu veux peut-être commencer, il paraît que t'avais beaucoup de choses, pendant qu'on a préparé l'émission, tu m'as dit que t'avais énormément de choses à dire sur le sujet, donc je te laisse la parole. Puis là, le lapin commence à me gonfler, je vais lui foutre une cahouette, là, j'en ai marre.
Oui, je sais pas, c'est vaste, t'as pas une question un peu plus précise pour me lancer?
Alors pour te lancer, à ton avis, pourquoi est-ce qu'il y a énormément de licences qui ont été transférées vers des studios occidentaux? C'est-à-dire que la Team Silent, par exemple, elle a quand même perdu son jeu phare. Bon, Metroid, c'est quand même, on est passé d'un développement japonais à un développement par un studio américain, alors très talentueux certes, mais un studio américain quand même.
Et après, ils l'ont ramené au Japon, hein, quand même.
Ah, ils l'ont ramené au Japon, mais avec un succès qu'on connaît.
Ouais, la Team Ninja, quoi.
Voilà, donc. Non, mais ils ont fait des boobs. Écoutez, les gars, ils ont fait des boobs. Qu'est-ce qu'on dit plus?
Non, mais elle en avait déjà, sauf sur GBA, dans les artworks.
Par rapport à The Real Life, c'était extrêmement soft, ça.
Bah oui, évidemment.
Oui, non, mais. Tes deux exemples sont assez moyens parce que Silent Hill, c'est une licence qui marchait plus du tout. Quand ils l'ont filé à des occidentaux, et d'ailleurs ça continue à ne plus marcher, et Metroid, c'était une licence qui était un peu de côté, c'est-à-dire Nintendo avait plus de développeurs, et là d'un seul coup bah, ils avaient Retro Studio qui proposait
Castlevania qui est passé
c'est pareil, Castlevania. Ça se vendait plus du tout, Castlevania,
surtout Castlevania c'était que sur console portable, et en 3D ils avaient jamais réussi à en faire un potable en interne chez Konami.
Mais attends, je suis pas d'accord, Castlevania Judgment quand même. Ceci était un troll.
Alors en plus pour le Castlevania Lord of Shadow, je suis pas sûr, enfin je sais pas si ça a été vérifié ou pas, mais grosso merdo à la base le jeu s'appelait juste Lord of Shadow. Konami a vu le projet, il a dit ce serait cool, on pourrait mettre Castlevania au début du titre, et c'est ce qu'ils ont fait. Et ouais, explique aussi le fait que ce Castlevania ressemble très peu au Castlevania que l'on connaît en termes d'univers ou de musique, par exemple.
C'est juste des histoires de tiens, on a cette vieille licence là qui nous sert plus à rien, on va la réutiliser, quoi. Mais ça va pas plus loin. Après, t'as des meilleurs exemples comme le Devil May Cry, par exemple.
Ouais, Devil May Cry, tu m'excuseras, ça marchait pas tellement. Enfin, c'était en perte de vitesse aussi. Hein. Le Devil May Cry, l'original, il a très très bien marché. Le 2 a déjà nettement moins bien marché. Ouais, et puis le reboot, le pseudo reboot qui a été fait trois fois.
Faut partir sur le bon angle. Je pense que est-ce qu'on va parler en termes de, est-ce que le jeu a marché en termes de vente, ou alors est-ce que le jeu il est de qualité ou pas? Parce que les jeux Platinum, par exemple, c'est de la balle, mais ils vendent pas.
Mais les deux vont ensemble. Là, juste, je me permets parce que quand même.
Bien sûr.
Vas-y.
Alors, Devil May Cry, je vais te sortir les chiffres. Le premier, il a fait 2,16 millions d'exemplaires. Et le 4, donc c'est-à-dire celui juste avant que la licence soit donnée au studio anglais Ninja Theory, il a fait 2,9 millions d'exemplaires, c'est le plus vendu de la série. Donc, d'accord. Au moment où ils ont filé la licence, elle était à son top niveau.
Maintenant, 2,9 millions sur deux consoles contre 2 et quelques sur une seule. Aussi. Oui, bon, même si c'était la PS2.
Et, enfin, il y a eu le PC, mais c'est pas comptabilisé dedans, j'imagine.
Non, le PC est même pas comptabilisé dedans. Non, c'est juste PS3 360. Enfin, tout ça pour dire, parce qu'on s'écarte un peu.
Les gens.
En fait, enfin, non mais c'est-à-dire que le sujet est assez vaste dans le sens où, pour répondre simplement à la question, oui, les développeurs japonais sont bien à la ramasse depuis quelques années. Et ça, enfin, ça vient pour tout un tas de raisons qui seraient un peu impossibles à résumer en quelques minutes. Et enfin, maintenant, ça crée cette situation un peu bizarre où on a les éditeurs japonais, c'est-à-dire pas seulement les développeurs, mais même les éditeurs qui sont à la ramasse, mais en partie parce qu'ils ont fait confiance à des studios américains, qu'ils ont suivi la logique à la conne de Inafune. Enfin, c'est pas lui qui a inventé ça non plus, mais qui vantait l'intérêt de faire développer des jeux par des studios occidentaux. C'est pour ça, parce que Inafune était à fond là, dans cette idée là c'est pour ça que Capcom l'a beaucoup fait.
Donc le but, pour mieux cibler le public occidental ou
pour mieux cibler le public occidental, parce que ça, enfin voilà, c'était les ventes internationales étaient plus importantes, le potentiel international était plus important que le potentiel japonais, et du coup voilà, sa logique c'était de faire développer par des occidentaux parce que les japonais étaient un peu à la ramasse techniquement, ce qui est un fait.
C'est toujours un fait, ça. On considère toujours que les studios japonais sont un peu techniquement à la ramasse. C'était vrai il y a quelques années. J'ai l'impression qu'ils rattrapent un peu le retard.
Ça dépend. En fait, si tu prends par exemple Resident Evil 5 qui est sorti en 2009, il était techniquement adapté à son époque pour les versions console de salon. Si tu prends le dernier Metal Gear qui se finit en 2 heures, ça casse pas à la baraque, mais c'est le début de la nouvelle génération. Entre-temps, c'est pas qu'ils ont pondu de la merde, mais de toute façon, techniquement, la génération qui vient de se terminer.
Ah, bon, on a encore perdu.
On a perdu Oscar. Ah,
je pense qu'il y a aussi deux choses qu'il faut...
Techniquement, je veux dire, ils sont pas très présents sur PC, tout comme le sont les éditeurs occidentaux, et l'avancée technologique, elle se fait sur PC. Ils peuvent pas vraiment rivaliser sur ce point-là. On peut pas vraiment mesurer avec les machines actuelles, avec les consoles actuelles, si oui ou non les devs sont au point ou pas techniquement. En tout cas, c'est pas eux qui apportent les moteurs de jeu. Les moteurs de jeu, c'est l'Occident, quoi.
Il y a aussi une culture qui est un peu différente au Japon.
Oui, Oscar est de retour.
Je me disais, cet enculé de Méduse, il me laisse pas parler.
On t'entendait pas, je suis désolé, mais je suis quand même un enculé.
Enfin, au niveau du Japon, il y a surtout deux choses qui sont assez importantes au niveau. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont assez importantes chez eux au niveau du développement. C'est que, oui, sur la partie peut-être visuelle, enfin, technique visuelle, ils sont en retard par rapport aux Américains, mais aussi ils ont. Enfin, j'ai l'impression que les Japonais étaient beaucoup plus sur le côté on va faire des gameplay cool, des gameplay un peu complexes. Non, mais
ça,
aussi.
Oui, ça c'est clair. De toute façon,
il y a le côté aussi. Enfin, il y a aussi le côté, ils sont très très sur les supports portables. La PSP japonaise, c'est quand même. C'était pas l'équivalent de la DS, mais c'était quand même ça marchait extrêmement bien. Et ce qui fait qu'au lieu de développer un Monster Hunter sur PS3, ils l'ont fait sur PSP. Il y a beaucoup de grosses licences japonaises qui sont sorties sur PSP parce que c'était une PS2 portable, ça coûtait moins cher à développer et que ça marchait bien chez nous, que ça se vendait mieux. Et du coup, je pense qu'aussi une partie des équipes était occupée à travailler là-dessus. Ils ont eu un petit peu de retard sur le développement sur console HD aussi à cause de ça.
Oui, mais... Enfin, oui, non, mais ça, effectivement, de toute façon, ça, c'est une des raisons. Il y en a plusieurs qui sont du même ordre, comme le fait que la PS3 a mis très longtemps à démarrer au Japon. Elle se vendait pas du tout au début, et la Xbox 360 évidemment se vendait pas non plus, ce qui fait que par définition pour eux la génération HD elle a commencé beaucoup plus tard,
parce que ils allaient pas faire l'effort d'investir dans de la formation ou des choses comme ça si ça marchait pas.
C'est le problème de Nintendo aujourd'hui.
Ouais, voilà. C'est-à-dire un exemple tout con, il y a une série ça c'est un exemple parfait parce que c'est une série qui n'existe qu'au Japon, c'est Super Robot Aizen, qui a un succès énorme, enfin qui avait en tout cas un succès énorme parce que ça a tendance à baisser. Là, on est quand même en 2014. La génération HD avec la PS3, elle date de 2006. Et là seulement, c'est seulement cette année qu'on va avoir le tout premier Super Robot Tyson en HD.
Oh, c'est le second techniquement, mais.
Oui, enfin non, mais c'est le original génération, ça compte pas. C'est pas un vrai Super Robot Tyson. Non mais c'est vrai. Et non mais c'est vrai. Le concept de Super Robot Tyson, c'est de mettre plein de licences de Gundam et compagnie. Original génération, le concept c'est de ne pas prendre de licences existantes.
Et plus de thunes avec moins de licences à payer.
Ouais, mais ça se vend moins bien aussi. Et enfin tout ça pour dire que voilà l'étendue du retard des Japonais quoi.
Donc. On va dire Persona 5 à la fin de l'année sur PS3 aussi, c'était pas mal.
Ouais, voilà, mais c'est même pas étonnant parce que Persona 4 il est sorti en 2008 sur PS2, c'est-à-dire 2 ans après la sortie de la. Quoi.
Alors donc, après c'est aussi, je me permets, effectivement ils ont accumulé un certain retard. Après aussi il faut voir que au Japon il y a toujours eu les consoles ont toujours eu une durée de vie entre guillemets un petit peu plus longue qu'en Occident. C'est-à-dire alors, que le dernier jeu qui est sorti sur Super Famicom, c'était, je crois, enfin, un des derniers jeux sortis, c'était Super Famicom Wars, il est sorti en 98. Ça faisait quand même un bon moment que la N64 était sortie.
Et même un Fire Emblem.
Un des derniers, je pense.
Fire Emblem, ça date même de 2000.
Enfin voilà, tu vois, donc ça fait.
C'est les mecs, ils ont la 64 et ils sortent un jeu Super NES pour faire.
Bah écoute, enfin, ça marchait bien.
Enfin bref,
c'est un détail, hein, mais c'est
non, mais ce que je veux dire, c'est pas tout à fait vrai dans le sens où, au contraire, les consoles ont tendance à, en tout cas sur ces dernières générations, à mourir beaucoup plus vite au Japon.
Ah ça c'est intéressant. Là tu m'intéresses beaucoup parce que c'est vrai que c'est un phénomène un peu nouveau.
Bah non, mais c'est logique parce que le Japon a tendance à être un pays où le grand public et par nature beaucoup plus gamer qu'en Occident, où le grand public c'est en gros des enfin pas tous, mais bon, en gros des bofs quoi. Et donc, non mais ce que je veux dire c'est que
c'est beaucoup plus présent, le jeu est plus présent dans la culture nippone quoi.
Non mais oui, voilà.
C'est une façon polie de dire que c'est des bofs quoi.
C'est non mais voilà, ce qui fait que il y a un moment où par exemple la PS2, bon elle continue à se vendre encore un peu, mais un niveau dérisoire dans le sens où bah, c'était, voilà, la PS2 c'était complètement obsolète, alors que dans le reste du monde, notamment en France, elle continuait à pas mal se vendre parce que c'était une console à 70€ avec un jeu et que pour tout un tas de gens bah, ça leur suffisait pour jouer, alors qu'on était en 2010 par là. Donc il y a ce côté là maintenant. En revanche, c'est vrai qu'il y a un côté autant les consoles ne se vendent plus du tout, enfin, se vendent de moins en moins après la sortie d'une nouvelle, mais les jeux peuvent continuer à bien se vendre. Et enfin, il y a un exemple tout con, c'est la PlayStation. Le jeu le plus vendu de la PlayStation, la première au Japon, c'est Dragon Quest 7, et il est sorti après que soit sortie la PS2.
Oui, donc ça, effectivement, voilà, c'est un exemple super parlant. Idée,
quoi. Alors que, dans le reste du monde, c'est pas possible un truc équivalent, quoi. Oui, évidemment, c'est Dragon Quest, mais
pour dire, non, c'est juste.
Mais même, je suis tout à fait d'accord, dans le reste du monde, c'est un truc qui serait quand même très étonnant. Sauf si le jeu en question, il sort vraiment juste après la sortie de la génération suivante. Mais ouais, il faut vraiment tomber dessus.
Dans le cas d'un jeu exceptionnel du type un Pokémon qui va sortir sur DS, ah, alors que la 3DS vient de sortir, ou ce genre de truc là quoi.
Ouais, ou GTA 5 si produit, était sorti l'année d'après, je pense qu'il serait très, il aurait très bien marché si c'était sorti que sur Xbox et PS3.
Il aurait très bien marché, 2014. Mais pas autant à mon avis. Et
peut-être
pas,
ouais.
C'est là où je vais en dire, typiquement Pokémon, le Pokémon qui est sorti après la 3DS, il a eu des ventes qui étaient pas terribles. Et il aurait, à mon avis, il aurait mieux marché sur 3DS quoi.
D'accord, mais c'est un point relativement intéressant. Est-ce que vous pensez que ce déclin, donc on est tous d'accord sur le fait que ben, techniquement ils étaient à la ramasse, on a essayé d'apporter une explication. Maintenant il y a quand même des genres typiquement japonais qui font plus du tout recette non plus. C'est-à-dire que je prends un exemple, hein, mais le JRPG traditionnel, bien comme il faut, je connais des fans de JRPG, ils sont ultra dalleux depuis la fin de la PS2 quasiment, parce que il y a
Xenoblade.
Ouais, c'est un peu ça, mais c'est à peu près le seul jeu potable
Non, mais
qui a été
mais
fait alors... ces dernières années. L'arcade aussi, qui était un style que... typiquement japonais.
L'arcade marche toujours très bien. Enfin, très bien.
Le Game Center marche toujours populaire. Relativement bien au Japon, oui.
Au Japon, il y a toujours des gens qui vont dans les salles d'arcade. Il y en a toujours partout, de toute façon.
Oui, mais voilà. Mais par exemple, tout ça est lié dans le sens où l'arcade, typiquement, ce qui a accéléré le déclin de l'arcade, c'est pas le fait que ça marchait moins bien au Japon, c'est le fait que ça marchait plus du tout dans le reste du monde. Et que du coup, le marché se limitait au Japon. Et les JRPG, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans une époque où les coûts de développement ont explosé. Et ça devenait. Et vu que les JRPG, c'était un genre qui se vendait essentiellement au Japon, bah, ça devenait de plus en plus difficile de développer des JRPG ambitieux. Quoi.
Ouais. Après, ça, c'est, les JRPG, ils se sont quand même trop mal exportés à partir d'une époque. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que plus le temps passe, plus le jeu vidéo il gagne en diversité. Et enfin, en narration, par exemple, dans les jeux le scénario est important. Et donc, t'as aussi le fait que tu fais pas du JRPG maintenant comme tu faisais du JRPG à l'époque de la Super NES, quoi. Donc, le JRPG n'est parfois plus vraiment du JRPG quand tu prends des jeux comme comment il s'appelle le jeu là sur la génération. Non, pas FF Couloir, je sais pas comment ça se prononce, NIR, NIE là.
Nier,
ouais. Moi, je sais pas comment ça se prononce.
Non, je sais pas du tout. Hein.
Ben, voilà, bref.
Nier.
Ouais, c'est le jeu de caviar.
Last Remnant, tout truc dans le genre, c'est pas des jeux qui sonnent typiquement comme des JRPG, alors que ben, voilà, c'est des RPG, mais je veux dire, ça aurait pu être fait à la limite par des occidentaux presque.
Non, mais c'est typiquement un bon exemple parce que Nier est un jeu qui graphiquement est à la ramasse.
Ouais, complètement.
Et d'ailleurs, c'est un jeu qu'ils avaient voulu vendre aux Occidentaux. Enfin, une version avec un personnage principal adulte qui était pour l'Occident, et la version japonaise, par contre, avait un adolescent qui, et dans les deux cas, ils devaient sauver leur sœur ou leur fille, je sais plus exactement.
Non, c'est la version PS3 et la version 360 qui sont différentes.
C'est pas la version japonaise et la version occidentale ?
Alors, je sais pas, là,
Moi, il me semblait que c'était la version occidentale qui avait un personnage adulte. Mais, et...
Je sais qu'au Japon, la version PS3 et la version 360 ont un nom différent.
Et oui, une version 360 au Japon.
Ouais, elle est sortie, ouais.
D'accord. Mm.
Ouais, ils avaient donné un nom différent, je me souviens plus des noms, mais alors qu'en revanche, en Occident, ils avaient laissé les mêmes noms pour éviter une confusion. Mais a priori, les deux versions sont bien différentes.
Ouais.
Enfin, d'accord. Bon, là, on rentre dans
des détails. On rentre dans des détails un peu subtils.
Après, au niveau du JRPG, je pense qu'il y avait un autre problème qui est plus propre à cette génération de jeux, c'est que les joueurs ont plus le temps. T'as plus le temps de faire un RPG qui dure 60 heures, tout simplement.
Ouais, mais enfin, ils ont plus le temps. Peut-être que nous, on a un peu moins de temps, mais il y a toujours des jeunes qui dégagent plus de temps.
Même, enfin, j'aurais envie de dire même pas, en fait, parce que on est quand même dans une génération où la nouveauté, c'est la nouveauté d'abord, et c'est vrai tu passes 60 heures sur le même jeu, t'as la ramasse.
Oui, non, mais alors je suis d'accord. Maintenant, je pense qu'on s'éloigne un peu du débat dans le sens où, typiquement pour les JRPG, les problèmes, c'est pas tant la demande que l'offre. Il y a quand même, comme disait Mortal, les fans de JRPG ils sont un peu en mode dalleux parce que c'est beaucoup moins l'offre est beaucoup moins intéressante qu'à l'époque de la Super Nintendo ou de la PlayStation. Et ça, c'est vrai dans le sens où, à mon avis, ça vient surtout du fait que les coûts de développement ont explosé, que maintenant Square ils étaient capables d'avoir plein d'équipes sur plein de jeux différents et que maintenant ils sont obligés de faire des Final Fantasy avec 300 personnes qui bossent dessus. Et du coup, ils font plus que des Final Fantasy parce que c'est ce qui marche le mieux, quoi. Et les petits studios, ils ont de plus en plus de mal à...
Ah, on a reperdu Oscar.
Je pense qu'il voulait dire que les petits studios avaient du mal à faire des JRPG
à s'en sortir,
qui étaient vendeurs. En fait, qui sont tous vendeurs parce que depuis 7, le JRPG pour l'Occident, ça reste quand même des belles cinématiques, des trucs qui envoient. Et c'est pas quelque chose que Atlus, tout simplement. Qui fait les Persona peut se permettre de faire très souvent en plus les Persona qui sont des zones niches peut se permettre de faire sur une console HD aussi facilement qu'ils le faisaient sur PS2.
Ouais, mais alors typiquement Persona, c'est intéressant parce que c'est relativement un jeu de niche qui a quand même vu sa popularité exploser ces dernières années, notamment à mon avis parce qu'il y a une concurrence beaucoup moins forte. Et on verra avec ce que fera le prochain Persona, mais je pense que le prochain Persona a un fort potentiel pour être l'une des meilleures ventes de la PS3 au Japon et l'épisode le plus vendu de la série au Japon. Et en plus, maintenant, ils arrivent à l'exporter, ce qui n'était pas du tout le cas au tout début. Et enfin, tout ça tient du fait que les Persona, c'est quand même des jeux qui sont bien réputés pour être quand même bien peaufinés, ce qu'on voit de moins en moins souvent dans le domaine des JRPG aujourd'hui. Et eux, ils ont réussi à s'en sortir parce que c'est Atlus et que c'est un studio qui a toujours eu plus ou moins suffisamment de succès pour pouvoir survivre. Enfin, un studio, un éditeur. Et du coup, ils ont pu continuer à privilégier cette série-là. Maintenant, tu regardes, le problème, c'est qu'à côté, Square, ils font plus rien que du Final Fantasy, du DQ, du
King of Hearts. En changeant les noms pour mettre des trucs qui n'ont aucun rapport.
Ouais, voilà, exactement.
Comme ils font du Monster Hunter.
Namco, il fait son Tales annuel. Et ouais, du remake tout le temps.
Voilà, mais de toute façon, après, ça, c'est un autre problème typique des éditeurs japonais, c'est qu'ils ont pas assez fait de nouveaux jeux. Tu prends Namco, à l'époque de la PlayStation, c'est quand même un éditeur qui a balancé en quelques années une ribambelle de nouvelles séries à coup de Ridge Racer, à coup de Time Crisis, de Tales of,
de Ace Combat,
de Tekken, etc. Et après ça, ils ont rien fait. Sur PS2, ils ont créé Taiko, et c'est à peu près tout, quoi. Sur PS3, ils ont rien créé, il y a eu juste God Eater sur PSP et c'est tout. Et il est là le problème, c'est-à-dire que leurs vieilles séries, les Tekken et compagnie, ça marche de moins en moins bien. Et comme ils ont rien derrière pour prendre la relève, du coup, ils pèsent de moins en moins lourd dans l'industrie.
Ouais, mais la vraie. Enfin, je comprends bien ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement, le... Il y a un déclin qui, donc de ce que tu nous dis, je fais une toute petite synthèse comme ça là, il y a un déclin qui est quand même tout relatif, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des trucs qui marchent plus du tout, et côté de ça il y a quand même des éditeurs et des studios qui arrivent à s'en sortir très bien. Tu citais les Persona qui effectivement se sont fait une petite niche, même en Occident c'est des jeux qui marchent, c'est pas transcendant, enfin ça fonctionne quand même pas trop mal. Mais à côté de ça, effectivement, il y a eu une période un petit peu à blanc au milieu des années 2000, on va dire, dans lequel il y avait plus de nouveautés, plus de choses comme ça. Est-ce que pour vous, ça a à voir avec, je sais pas, quelque chose de plus global au niveau du Japon, parce que économiquement, démographiquement, le Japon est quand même un pays qui est sur le déclin aussi. Donc, est-ce que ça a un rapport avec ça, c'est-à-dire que économiquement, le Japon est sur le déclin, donc. Finalement, l'industrie du jeu vidéo, ça n'est qu'une partie de l'économie, donc elle est sur le déclin aussi. Ou est-ce que c'est une raison plus profonde qui fait que il n'y a pas eu d'innovation parce qu'ils se sont simplement endormis sur leur laurier et qu'ils sont en train de se prendre un électrochoc dans le cul là.
En fait, non, moi je pense que c'est l'inverse, que la théorie qu'ils soient endormis sur leur laurier, c'est qu'au contraire, ils n'ont pas voulu voir trop ambitieux. À la différence des éditeurs occidentaux, et c'est ça, à mon avis, qui les a vraiment différenciés, c'est que ils ont joué petit bras, quoi. Faut bien comprendre que Ubisoft, ils ont, je sais pas, quelque chose comme 7000 employés dans le monde. Capcom, ils en ont 2000 et quelques, quoi. Donc il y a vraiment un écart. Ils ont pas voulu faire trop ambitieux, ils ont pas voulu trop investir dans des développements, ils ont voulu rester à un petit niveau, à un truc un peu sécuritaire, ce qui, dans un sens, paye pour eux, parce que les éditeurs japonais, ils sont quand même, dans l'ensemble, en bonne situation financière. Ils ont très rarement des années où ils ont des pertes. Et d'ailleurs, oui. quand ils ont des pertes, ça devient tout de suite une catastrophe, comme on a vu avec Square Enix, où l'année dernière, ils ont signé leur première perte en je sais pas combien d'années, qui n'était pas si énorme que ça, et tout de suite, ils ont viré le patron, quoi. Alors
oui,
qu'à
mais
côté...
c'est très japonais comme méthode de gestion, c'est-à-dire effectivement extrêmement prudent, mais là, du coup, tu dis c'est presque trop prudent, en fait.
Mais c'est-à-dire qu'à côté, tu regardes Electronic Arts, qui se sont énormément développés sur la génération précédente, enfin sur les deux générations précédentes. Ils ont accumulé des pertes monstrueuses c'est surtout ça qui les différencie à mon avis et je pense que ça c'est une leçon qu'ils ont eu de la part de ce qu'avait fait Square à l'époque du film Final Fantasy quand ils ont justement voulu voir grand. Où ils ont essayé de devenir vraiment une grosse société, ils ont fait le film Final Fantasy, ça a été un bide énorme, ça leur est revenu dans la gueule à vitesse grand V, et ça les a foutu dans la merde. Et ça, je pense que ça, du coup, ça a fait peur à un peu tout le monde, quoi. Et qu'il y a un peu tout le monde qui a essayé de qui a vu petit et qui a préféré continuer à faire des trucs mais en restant prudent. Et vu que les coûts de développement ont explosé, fatalement, ça a fait qu'ils étaient moins
compétitifs. Moins compétitifs. D'accord, c'est un avis intéressant. Je vous propose d'arrêter l'émission là, sauf si quelqu'un a quelque chose éventuellement à rajouter sur le sujet. Parce que là, Oscar nous a brossé un tableau que je trouve extrêmement intéressant.
Il faudrait ajouter quelque chose. Moi, c'était.
Vas-y.
J'avais parlé un petit peu justement de l'aspect mobile. Et non seulement, on voit que les Japonais ont quand même du mal à rattraper leur retard. Mais alors, c'est quelque chose qu'on voit moins de l'Occident. Mais ils se renferment de plus en plus justement sur le support mobile. On va reprendre l'exemple de Square qui ressort le Dragon Quest sur Android. Le prochain Star Ocean, il est sur Android. Même si c'est pas une grosse série de RPG et que le dernier était particulièrement mauvais. Ça fait un peu étrange de voir quand même une grosse série de RPG finir sur téléphone en free to play. Namco sait qu'ils balancent pas mal de trucs sur mobile. Je crois que Capcom aussi tout pas mal dans le genre. Et voilà, donc
ils vont aussi se prendre le retour de manivelle sur mobile, je pense, à un moment.
Je crois que c'est déjà en cours.
Je sais pas, c'est-à-dire que le mobile est quand même un truc qui le Japon est le premier consommateur d'applications mobiles au monde, quoi.
Regarde, dans le métro, ils ont l'ennui sur leur téléphone.
Ça fait longtemps que t'as pas mis le nez dans le métro parisien, toi.
Ouais, c'est pas faux aussi.
Mais je pense pas qu'ils risquent de se prendre un gros truc sur la tronche, parce que justement, ils ont eu les leçons de tout ce qui s'est passé, de toutes les modes qui ne durent qu'un temps. Et je pense qu'ils sont préparés à un possible déclin du mobile.
D'accord. Méduse, tu voulais rajouter un truc ?
Moi, je me demande en termes de perspective vers où on va, sachant que on a une nouvelle génération qui vient d'arriver, donc techniquement la barre elle est placée encore un peu plus haut. Je me demande comment est-ce que les éditeurs et développeurs japonais vont gérer le schmilblick pour à la fois apporter quelque chose qui soit d'un plus haut niveau techniquement et qui en même temps tienne la route en termes de gameplay. Tout ça parce que c'est vrai que vu qu'ils s'y sont pris à la bourre, tout comme Nintendo s'y est pris à la bourre, on peut s'attendre à ce qu'ils rament un petit peu avant d'embrayer sur les occidentaux qui ont déjà expérimenté à peu près tout et rien en termes de qualité de moteur, etc., sur 11 000 plateformes différentes, quoi, y compris le PC.
Effectivement, ça risque d'être relativement intéressant de voir comment ça va, de tourner.
Chose qui me surprend un petit peu, à la sortie de la Wii U. Je me souviens sur Nintendo Man, on avait justement un petit peu parlé de les éditeurs japonais, ils sont à la bourre, donc ils vont sûrement développer sur Wii U. Et on voit qu'à l'heure actuelle, c'est pas le cas, donc.
Parce qu'elle marche pas au Japon.
Est-ce qu'il n'y a pas vraiment qu'au Japon qu'elle marche pas? Je crois que
nous le dire. C'est même au Japon qu'elle marche le mieux.
Ça va décoller,
doucement.
Donc ils vont être sûrement restés encore sur PS3 un petit moment, ce qui fait qu'au niveau de l'Occident, les Japonais, on les verra pas beaucoup, je pense.
Il y a un truc que je trouve assez intéressant là, c'est que avec la PS4, ils ont eu une approche très prudente par rapport à la PS4, parce qu'ils s'attendaient vraiment à ce que ce soit exactement comme la PS3, que ce soit un démarrage minable et que les ventes ne suivent pas. Sauf que finalement, ça n'a pas été le cas. Il y a eu un démarrage assez correct, ce qui montre qu'il y avait une demande pour la PS4 au Japon. Sauf que derrière, ça ne suit pas parce qu'il n'y a aucun jeu japonais prévu sur PS4, quoi. Aucun jeu d'envergure exclusif à la PS4. Et du coup, c'est plutôt inquiétant pour l'avenir de la PS4. Et ça fait que, effectivement, on risque de se retrouver avec. C'est même pas qui vont développer sur PS3, c'est que. C'est qu'ils auront juste la 3DS, quoi, comme console qui fonctionne, et même la Vita à la limite, quoi.
Ouais, ça risque d'être sacrément compliqué à gérer.
Ouais,
bien.
Ouais.
Est-ce que quelqu'un a une blablague de fin?
C'est
un peu épuisé.
Après ce sujet extrêmement sérieux, c'est vrai que c'est très compliqué d'enchaîner, mais c'était un débat extrêmement intéressant, messieurs. Je vous remercie beaucoup d'avoir apporté le plus possible de vos lumières et d'avoir mis vos cerveaux sur le bar. Maintenant, il va être temps de les faire tomber dans des verres de whisky.
Ouais, on va lancer les bouteilles.
Donc, on va se quitter. Donc malheureusement, j'ai pas de blague, j'ai rien du tout pour se quitter. Donc je vous propose de faire ce qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire se quitter comme des péteux. Voilà, je vous dis juste ta gueule et mes Tetris, et puis on se retrouve dans 2 semaines. Salut.
Salut.
Salut.